L'idée d'un Internet force de renouveau de la démocratie a donc vécu depuis la victoire du Brexit et de Donald Trump. Les réseaux sociaux sont accusés de s'adresser d'abord aux émotions plus qu'à la raison, d'enfermer les internautes dans des bulles coincées avec ceux qui leur ressemblent, pensent comme eux. Première victime de cette situation, la vérité et la capacité à débattre. On ne discute plus en invective. Voilà pour le discours ambiant. Il ne faudrait pas non plus effacer trop rapidement les promesses d'une démocratie plus directe. Et donc, pour en discuter et faire le tri entre émotion et raison, dans cette semaine, vous l'aurez compris, consacrée aux émotions, on est avec le sociologue Dominique Cardon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé au sein du Sciences Po Media Lab et on vous doit plusieurs ouvrages sur, justement, Internet et la démocratie, à quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l'heure du Big Data. C'était au Seuil en 2015, dans la collection La République des idées, la démocratie Internet, toujours au Seuil en 2010. On peut citer aussi Médiactiviste avec Fabien Grandjean, c'était aux presses de Sciences Po, toujours en 2010. Alors, Dominique Cardon, cette actualité, ces actualités même qui se suivent, Trump, le Brexit, François Fillon, quel rôle ont joué les réseaux sociaux, Facebook, Twitter? Est-ce qu'on a raison de voir la victoire des émotions sur la raison, justement?
Ce qui est compliqué, c'est que je crois que la grande transformation numérique, elle est en train de bouleverser la forme de l'espace public et qu'on applique beaucoup de critères de raisonnement et d'interprétation à cette nouveauté qui viennent de la forme ancienne de l'espace public. Et que du coup, on a du mal à en comprendre la nouveauté. Nouveauté qui a des effets très positifs, je crois, mais qui évidemment crée aussi des zones de turbulence absolument inquiétante.
Vous pouvez donner un exemple de ce décalage, on n'a pas les bons moyens d'observation.
Mais je crois qu'un des problèmes principaux qu'on a vis-à-vis de cette histoire des réseaux sociaux, hein, c'est de comprendre la spécificité de leur nature, de la revendication sociale, politique et culturelle qui est derrière, et du type d'énonciation qui est produite. Les réseaux sociaux, c'est de la sociabilité. La sociabilité, c'est de la conversation entre des gens qui se sont choisis. La plupart du temps, quand on parle de Facebook, ce sont des gens d'ailleurs qui se connaissent dans la vraie vie, on sait que ceux qui interagissent. La forme d'énonciation, le registre de discours qui est mis en place dans ces espaces-là, c'est d'abord, bien avant la question de l'information, c'est d'abord l'amitié, la vanne, l'humour, l'échange, le partage, la photo, le selfie.
L'émotion.
Pas forcément l'émotion. Il faut aussi défendre cette part de nos vies qui est que nous sommes dans des régimes d'énonciation qui sont d'abord ceux de la sociabilité. Et dans cette sociabilité, on utilise aussi des informations qu'on va prélever dans le grand espace du web, les vidéos sur YouTube, les médias d'information, les articles de presse, et puis un peu tout et n'importe quoi. Mais cette chose vient nourrir quelque chose qui est une discussion informelle d'amis, on pourrait dire le bistrot. Hein. C'est-à-dire que ce qui se joue dans ces espaces de sociabilité, c'est des modes d'énonciation. Et dans lequel, moi c'est la chose à laquelle je suis très attentif, il ne s'agit pas de séparer deux publics, le public des gens de la raison qui parleraient raisonnablement, en s'informant raisonnablement, et puis le public de l'émotion, de la moquerie, de l'humour et de l'outrance. C'est qu'en fait, nous appartenons tous à ces deux régimes, mais simplement dans des espaces, dans des lieux, dans des conditions qui sont différentes, à la cafétéria, dans la soirée entre amis, le repas du dimanche soir, le bistrot. On dit des choses de façon personnelle, émotionnelle, affective, dans lequel le dire est beaucoup plus important que le dit. Et d'une certaine manière, c'est cet espace de circulation-là, dans lequel effectivement il y a de l'information qui circule, mais à vouloir le rabattre et le mettre dans l'espace informationnel traditionnel, on risque de créer de grandes confusions.
Oui, mais la différence, Dominique Cardon, c'est que cet espace dont vous nous parlez, cet espace d'énonciation, il a pris une importance considérable, ou en tout cas, on lui donne une importance considérable, notamment dans des résultats politiques. On pense à Donald Trump qui s'adresse directement par Twitter à ses électeurs, par exemple. Et on a pu dire, on en avait parlé lundi dans une autre émission, toujours sur les émotions, sur cette fameuse histoire des émotions, on a pu dire qu'on est rentré dans l'ère de la post-vérité. C'était un article du Guardian très très cité de Catherine Wiener, la rédactrice en chef. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que véritablement on est rentré dans l'ère de la post-vérité? C'est-à-dire qu'il y a une domination de cet espace d'énonciation émotif, malgré tout, sur un espace plus raisonnable?
Si on suit ce que je viens de dire, il faudrait dire post-bistrot. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en train de se jouer, c'est que ces espaces conversationnels multiples, qui autrefois restaient enclavés d'une certaine manière dans des zones, des niches de l'univers social, mais étaient déjà très présents. Ils étaient invisibles, mais ils étaient là. Hein. Aujourd'hui, ils sont rendus visibles et ils sont rendus visibles par des mécanismes de visibilité. Et c'est là qu'on comprend très mal la nouveauté du numérique, c'est que l'air de rien, ce qu'on se dit sur Facebook, ce qu'on se dit sur Twitter quand on a 100 followers, c'est vu par personne. Hein. Mais si des gens qui eux-mêmes sont très visibles, les médias centraux, les gens qui ont des comptes Twitter avec un nombre important de followers vont piocher dans les caves de l'internet pour ramener ces propos de bistrot et les mettre au centre de la scène, tout d'un coup, il y a des effets de viralité qui sont énormes. Donc il faut vraiment penser maintenant l'espace central, l'espace médiatique central, et puis l'espace de ces conversations, de sociabilité, comme un espace dans lequel il y a des articulations très étroites, et dans lequel les gens du centre font assez peu attention au fait qu'en prélevant toute une série de propos, il les ramène et il leur donne une autorité, une visibilité qu'elles n'avaient pas précédemment. Il faut évidemment ajouter qu'il y a des nouveaux entrepreneurs en politique, pour lequel utiliser ce régime d'énonciation au centre est devenu le projet politique central, celui de renverser la table, de transformer le dire politique et de jouer de ce retournement des situations de façon délibérée et stratégique. Trump en est un exemple parmi d'autres.
Ce que vous décrivez là, Dominique Cardon, est très bien étudié par un chercheur belge qui s'appelle Nicolas Van Der Beest. Il était interviewé par Mouloud Achour sur sa chaîne internet Click TV et voilà, il explique comment il a étudié cette façon dont une communauté sur internet parvient à faire monter un peu artificiellement un sujet en générant du clic jusqu'à être repris sur les médias traditionnels. Exemple du premier phénomène qu'il a étudié.
Le premier phénomène de ce type-là, c'était une attaque d'une ONG musulmane qui s'appelle Baraka City contre la chaîne de télévision M6. Ils avaient organisé l'émission Pékin Express, mais en Birmanie. Et en Birmanie, il y avait le massacre d'une ethnie musulmane qui s'appelle les Rohingyas. Et l'ONG musulmane Baraka City n'avait pas trouvé ça normal. Ils trouvaient qu'on faisait la promotion du tourisme. Et donc, ils ont enclenché dans leur réseau, parce qu'ils avaient vraiment un réseau, une bataille contre M6.
Une émission de divertissement peut-elle se dérouler dans un pays qui persécute une partie de sa population? Une pétition en ligne a été lancée. Elle a récolté près de 30 000 signatures. C'est beaucoup. Ça allait tellement loin, cette mobilisation, que la chaîne a fini par se fendre d'un communiqué sur sa page Facebook.
Et ils ont réussi à avoir de la visibilité média grâce à cela. Alors, j'avais fait une analyse qui montrait que bon, c'était juste cantonné. Et M6, en fait, ils ont complètement laissé ça de côté. Ils se sont dit, c'est pas grave. On a eu des partenaires de l'émission qui, eux, avaient un intérêt. On avait, par exemple, une marque qui vendait de la viande halal. Ouais. Pour eux, c'est des communautés qui sont très importantes. Donc, typiquement, ils se sont levés. On a eu H&M qui avait un scandale avec un immeuble qui s'est effondré au Bangladesh. Eux, ils ne pouvaient pas se permettre. Et donc, se sont désistés de l'émission, ce qui a fait qu'ils ont perdu des partenariats et de l'argent.
On entend, Dominique Cardon, la complexité finalement du phénomène et on se dit que c'est moins l'outil qui est en jeu que la façon dont on l'utilise et notamment dont les médias traditionnels, pour reprendre cette expression, les utilisent.
Moi je crois que c'est ça, on est en train de découvrir la nouveauté numérique, elle est en train de nous surprendre, elle est en train de nous bousculer énormément. Il faut qu'on commence à mieux en comprendre les règles. Parmi les règles, il y a cette idée très présente, tout le monde peut participer, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire tout et tout, donc aussi n'importe quoi. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout le monde sur Internet produit des signaux qui vont être utilisés par les algorithmes pour calculer. Je like, je retweet, je fais un lien hypertexte, je fais un hashtag. On produit de la visibilité. On ne s'en rend pas compte qu'on a aussi donné, on a donné aux utilisateurs le droit de s'exprimer, mais on leur a aussi donné le droit de classer l'information parce qu'ils produisent des signaux qui vont servir au classement. Alors, quand on aura mieux compris ça, quand on a mieux compris que quand on fait un retweet, l'air de rien, on est en train de pousser une information, on comprendra mieux le type de responsabilité que chacun a lorsqu'il utilise Internet. Alors, les médias jouent un rôle très central dans cette affaire, parce qu'évidemment, elles sont complètement dans Internet. L'idée qu'il y aurait deux espaces, évidemment, n'a plus grand sens. Et que poussé par des raisons économiques, un certain nombre de médias, alors je dis ça ici sur France Culture qui n'est pas concerné par cette critique, poussé par des raisons économiques, passe son temps à organiser de nouvelles rubriques, en fait, d'une certaine manière, qui sont une sorte de commentaire de ce qui se dit sur Internet, et dans lequel, précisément, une partie du discours politique et du coup de la fabrication de l'agenda politique est produit par des commentaires qui reprennent les propos de bistrot qui ont été tenus dans les espaces sociaux numériques, et que en multipliant sous la pression du clic, parce qu'on sait que c'est le clic qui déclenche cette poussée, le clic lié au marché publicitaire qui déclenche ces propositions, le régime d'énonciation public, politique, distancié, etc., est constamment soumis. Alors c'est pas nouveau, c'est pas le numérique, la télé-réalité, les émissions d'Ardisson. Enfin, on sait que ça a une histoire longue dans les médias. N'ont cessé de pousser cette sorte de désenclavement de la forme du régime d'énonciation publique, et dans lequel évidemment les entrepreneurs politiques qui ont pour objectif de renverser ces tables de la légitimité du discours politique, ne cessent de se glisser pour subvertir le jeu de la parole politique.
Antoine, merci.
Oui, je voudrais revenir à l'histoire de Trump. On nous dit qu'on n'avait pas vu venir la chose, effectivement, et on nous dit aussi, si on avait été attentif à d'autres signaux, peut-être qu'on l'aurait vu venir. Est-ce que, par exemple, si on avait fait la tournée des bistrots, comme vous le dites pour parler des réseaux, est-ce qu'on aurait eu davantage la perception de quelque chose qui se produisait, qui nous surprenait
Facebook
ou pas ?
Facebook va-t-il remplacer les sondages ?
Non, alors ça je crois que c'est un mythe que font vivre certains, mais maintenant on le sait, il y a beaucoup de travaux là, mais de sciences du web. Hein. D'une certaine manière, ce que produisent les gens sur leur compte Twitter, Facebook, etc., c'est extrêmement peu prédictif. Hein. On ne prédit pas les élections, on ne prédit pas le succès d'un film, on ne prédit pas les actions en bourse.
Même quand on regarde dans l'ensemble, quand on regarde les statistiques qui sont fournies par Facebook,
parce qu'il y a des problèmes... pas encore assez techniquement au point pour faire un
Non, c'est parce qu'il y a des problèmes de représentativité statistique, on appelle ça l'effet d'autosélection. Les Écossais qui étaient favorables à l'indépendance l'ont dit énormément sur Twitter. Donc si on avait utilisé Twitter, l'Écosse serait indépendante. Mais ceux qui n'étaient pas favorables à l'indépendance ne se sont pas sentis obligés de le dire, mais même s'ils l'ont fait dans les urnes. Donc il y a toujours un décalage
entre bavard, quoi.
Les représentations et les comportements dans lesquels ces signaux ne donnent pas de choses très fiables.
Mais alors qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, on va dire, disons qu'on représente les médias traditionnels, verticaux, enfin tout ce qu'il y a de mal, mais qu'est-ce que cette parole publique à laquelle on a accès, il y a tout de même là une matière qui dit quelque chose, même si c'est beaucoup de dire, comme vous dites, et peu de dit. Est-ce qu'il faut totalement y rester étranger, ou est-ce qu'il faut malgré tout en tenir compte, et de quelle façon ?
Il y a quand même un impact, Dominique Cardon.
Moi, je pense qu'il faut la comprendre dans ce qu'elle dit, mais aussi dans les formes de visibilité qu'elle acquiert et qu'elle manifeste. Et que c'est souvent en étant peu attentif au fait que un compte Twitter qui n'a peu de followers, il n'a pas grand sens. En revanche, un hashtag qui a été suivi par énormément de personnes, il commence à avoir du sens. Mais il faut aussi savoir décoder ces choses. Si on regarde, je me suis amusé avant l'émission à regarder le hashtag Farid Fillon, dont on parle beaucoup. Si on regarde les tweets...
Peut-être pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi, c'est après Ali Juppé, il y a une certaine partie de l'extrême droite qui tente de promouvoir l'idée que François Fillon est très proche des extrémistes musulmans et donc a lancé un hashtag Farid Fillon. Alors, très
politique
ou pas ?
Alors, on peut regarder ce qui est dit. J'ai pas fait le calcul. Ça avait été fait autrefois pour le hashtag Je suis Kouachi, très bien, par... 60 à 70% des tweets sont des tweets qui dénoncent l'utilisation du terme Farid Fillon. Donc on voit bien qu'il faut faire attention à un volume, alors qu'à l'intérieur du volume, il y a en fait cette sorte d'espace polémique, agonistique,
un peu
sauvage.
Qualitative, malgré
alors
tout.
Alors on peut avoir une approche qualitative. Et puis il y a beaucoup d'effets d'opinion qui ont lieu sur le web et qui sont évidemment à prendre en compte. Mais c'est dans la manière de pas être attentif à la qualité du signal, à la forme du dire, que on peut commettre comme ça des sortes de prétendues subversions de la parole politique qui n'en sont sans doute pas.
Pour terminer sur cette histoire justement, Dominique Cardon, Alain Juppé avait, une fois qu'il avait perdu la primaire de la droite et du centre, il a dit ce hashtag Ali Juppé m'a été très défavorable. Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, peut-être pas sur cet exemple-là, mais un exemple comme celui-ci, est-ce qu'il est mesurable de voir comment, dans les urnes, un hashtag comme celui-ci, cette désinformation, peut avoir un impact ?
Bon, c'est très très difficile à faire. C'est très difficile à faire, il faudrait mettre en place des protocoles quasi expérimentaux, ce que les sciences sociales ne savent pas faire sur une réalité mouvante de ce type-là. Mais ce qu'on sait quand même, des travaux de sociologie électorale, c'est que c'est pas une information précise qui fait la décision de l'électeur. C'est un ensemble de constitutions de l'agenda et des enjeux prioritaires qui vont ensuite le décider. Et qu'il est sans doute, moi je dis ça parce que dans tout ce discours sur l'idée que finalement si les électeurs de Trump avaient été bien informés, ils auraient bien voté, on reconduit en fait cette idée qu'il y a ceux qui savent et qui sont liés à la vérité, et la vérité dans la chose elle-même, et puis il y a ceux qui sont dans l'ignorance, la croyance et la crédulité, et qui... s'ils avaient été bien informés par ceux qui savent, auraient mieux voté. Bon, alors je crois que c'est précisément une des raisons de l'élection de Trump, c'est-à-dire que les gens qui ont voté Trump savaient sans doute très bien que dans ce qu'il disait, il y avait ceux qui savaient disaient que c'était faux, etc., etc. Donc c'est plus dans cette boucle réflexive là qu'a lieu ces questions. L'idée qu'on pourrait nettoyer l'espace public, alors surtout en période numérique, dans notre âge numérique, qu'on pourrait nettoyer l'espace numérique de toutes ces choses un peu sauvages, un peu outrancières, un peu délirantes, etc., n'a pas grand sens. qui a en revanche sens, c'est de comprendre qu'il y a une architecture de la visibilité et que dans cette architecture de la visibilité, on doit tenir compte de la force qu'ont les signaux. Et il y a des signaux qui sont des signaux faibles et il y a des signaux qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus forts. Et c'est en comprenant les mécanismes de l'Internet qu'on les voit mieux.
Parce qu'il faut dire aussi, Dominique Cardon, que tout ça prend place dans ce qu'on pourrait appeler une forme de crise de la représentation. C'est-à-dire que l'accès direct entre certains hommes politiques et leurs électeurs, c'est aussi une façon, oui, d'aller contre cette crise de la représentation. On ne fait plus confiance aux représentants politiques.
Mais je crois que c'est là le grand cœur de l'affaire, hein, et toute l'ambivalence, en fait, hein, de la situation. C'est que d'une certaine manière, les offreurs de services des réseaux sociaux ont inventé un système qui était entré en adhérence avec des attentes sociales, politiques, qui sont liées aux formes contemporaines de l'individuation de nos sociétés, qui est de dire je ne veux pas qu'on choisisse pour moi, je ne veux pas que les partis politiques décident pour moi, je ne veux pas que les journalistes me disent quelle est la bonne information, celle que je dois voir et celle que je ne dois pas voir. Il y a cette sorte de confiance d'une sorte d'individu souverain qui dit moi je sais faire mes propres choix, et d'une certaine manière, pour faire mes propres choix, je vais utiliser une plateforme qui me dit mes choix vont dépendre des amis que j'ai choisis sur les réseaux sociaux ou des comptes auxquels je me suis abonné.
Oui, mais pardon, je vais être incroyablement vertical et surplombant, mais ces choix, est-ce qu'ils ne sont pas faits de façon émotive, alors que le rôle des journalistes, c'est justement d'avoir une forme d'objectivité, ou en tout cas, leur travail, c'est de hiérarchiser l'information. Donc, cette façon de choisir, est-ce qu'elle n'est pas plus émotive que rationnelle?
C'est le cœur même du débat. Alors, dire qu'elle est émotive, elle s'appuie, on le voit très bien pour Facebook. Hein. Facebook est un très beau cas, on accuse beaucoup l'algorithme de filtrer les informations. L'algorithme a des effets, hein, et faut pas le négliger. Mais le principal du filtre qu'on fait, c'est qu'on choisit ses amis. Et qu'en choisissant ses amis, on fait fonctionner toute la mécanique sociale, des distributions d'inégalités sociales et culturelles. Les gens qui ont beaucoup de ressources sociales ont des réseaux qui sont très longs et très étendus. Ceux qui ont peu de ressources sociales ont des réseaux qui sont très courts et peu étendus et super homogènes. Et ceux qui sont plutôt de tendance politique de droite ont des amis qui sont de droite, et ceux qui, etc., etc. Donc, si on renvoie la responsabilité à l'individu en lui disant c'est toi qui vas fabriquer ton écosystème informationnel, il va choisir avec ses ressources, en croyant toujours cette idée de l'individu souverain, en croyant que il est absolument libre, souverain, curieux, ouvert à tous les possibles et à tous les univers, alors qu'en réalité, il est guidé par beaucoup de mécanismes de socialisation.
Oui, tout comme on choisissait de lire Libé plutôt que Le Figaro, ou Valeur Actuelle plutôt que Le Monde Diplomate.
Beaucoup plus même que les médias verticaux, parce que là, on est encore les médias verticaux, on pouvait être lié, mais il y avait toujours un débat, il y avait toujours un autre qui disait autre chose, tandis que là, quand on est dans son microcosme de réseau, on est encore plus dépendant finalement cette parole collective.
Absolument. Et là on s'enferme dans
la... Bien, cette bulle de filtre, elle existe.
La reconduction. Oui, mais la question centrale, c'est qu'elle est, elle est en nous. Hein, c'est qu'on on s'enferme principalement dans la reconduction de ses propres pratiques sociales. Moi, ce qui est très fascinant avec ces histoires d'algorithmes, hein, et c'est de voir à quel point, en fait, ils nous prédisent un avenir qui est la reproduction de nos comportements passés. Et nos comportements passés, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, de lire, de cliquer, etc. Et puis, ils vont nous reproduire comme une information future, la continuation de la pente statistique de la courbe de nos comportements passés. Et donc, ils nous donnent ce que nous voulons. Et c'est en cela qu'il rentre dans cette idée d'individuation, personnalisation de l'internaute, en lui disant « Écoute, je te donne ce que tu as déjà fait. » Mais il donne à l'internaute ce qu'il veut, mais pas forcément ce qu'il voudrait. Hein. Et c'est ce petit décalage entre...
C'est quoi le décalage, alors, vous pouvez préciser ?
Entre nos comportements et nos représentations. Et c'est là que se glisse quelque chose de très compliqué et d'assez, on pourrait dire, ambivalent. Hein. C'est que quand on interviewe les Français, moi je cite beaucoup de ces exemples et je les adore, quand les Français sont interrogés dans les sondages, il y en a 20% qui disent qu'ils regardent Arte. Mais quand on regarde la courbe d'audience d'Arte, il y en a 1,5%. Et une très belle étude australienne de sciences de gestion, formidable, à propos d'une sorte de Netflix australien qui propose aux gens leur wishlist, les films que vous aimeriez voir. Alors les gens, on leur demande des films qu'ils aimeraient voir. Ils aimeraient, je caricature, mais ils aimeraient voir des films de Kiarostami, refaire l'intégrale d'Ozu, voir des films d'Antonioni. Mais ce soir, ils sont trop fatigués. Et ils ont regardé un blockbuster américain. Bon, cette ambivalence, elle est en nous. Elle est constamment en nous. Il y a des choses qu'on voudrait faire. Il y a des choses auxquelles on voudrait s'intéresser. L'Internet nous offre une abondance d'informations auxquelles on pourrait s'intéresser. Mais l'air de rien, dans nos comportements, là où on a vraiment cliqué, ce qu'on a vraiment lu, ce qu'on a vraiment vu, c'est pas exactement ce qu'on voudrait.
Hein, et donc les réseaux favorisent ça, vous voulez dire?
Et alors, les algorithmes, ils ne s'occupent que de ce qu'on fait. Hein. Ils ne s'occupent pas de nos représentations, de nos désirs, de nos émotions. Hein. Et du coup, ils appliquent une sorte de grille absolument réaliste sur l'individu en lui disant, après tout, je vais te donner des informations qui sont à la hauteur de tes propres pratiques, mais pas de tes représentations parce que tu ne fais pas ce que tu voudrais. Et c'est dans ce décalage-là, sans doute, qu'il faudrait qu'une protestation forte puisse réinstaller un intermédiaire pour dire, je te rappelle que tu aimerais aussi faire ça. Hein, le jour où t'es pas fatigué, tu pourrais regarder un film de Kiarostami.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme.
Dominique Cardon, on vient de toucher du doigt, je pense, le cœur du problème, la différence entre comportement et représentation. Est-ce que mesurent véritablement ces algorithmes que vous avez étudiés dans les réseaux sociaux? Et comment ça s'articule avec nos engagements? Peut-être comment les émotions s'articulent avec l'engagement politique? C'est quelque chose qu'on arrive à mesurer, ça aussi?
Mais c'est très compliqué là aussi. Enfin, il faudra entendre, savoir ce qu'on entend par émotion. Mais en tout cas, de considérer qu'un acteur social, c'est à la fois des pratiques, mais aussi toute une série de représentations, et que ces représentations, elles sont façonnées par la société comme un collectif et comme un commun, et que c'est dans la boucle réflexive entre nos représentations et nos pratiques qu'on fabrique un individu. C'est le projet, on pourrait dire, de la sociologie depuis Durkheim. Hein. Et dans les engagements politiques, il est clair que la fabrication des représentations joue un rôle très central, parce qu'elle va aussi s'incorporer dans les individus, façonner des comportements, créer des fidélités et des attachements qui peuvent être des attachements plus ou moins durables et qui vont faire fabriquer l'engagement politique. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, mais à la fois parce que les producteurs de représentations sont en crise grave aujourd'hui, que les individus sont dans leurs engagements politiques de plus en plus livrés à des réactions spontanées dans lesquelles le poids de ces représentations collectives aurait moins, mais je le dis avec une très grande prudence, parce que on pourrait opposer plein de contre-exemples, mais aurait moins de poids dans ces fameux clics, dans ces pétitions, dans ces hashtags, dans ces moments, effectivement, où ce qui se joue parfois sur les réseaux sociaux, c'est une forme très grande de mimétisme et de viralité. Et là, on revient aux fameux signaux de l'Internet, c'est que, l'air de rien, un énoncé politique, quand on le partage sur Twitter ou sur Facebook, et si c'est un énoncé politique, on dit « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord ». Mais les nouvelles formes d'énonciation du politique, outrancière, provocante, etc., qui ne jouent que sur le dire, en fait, hein, et que sur cette provocation, on les partage pas en disant « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord », on les partage parce que « t'as vu ça, mais t'as vu ce qu'il a osé dire ». Et ce « t'as vu ce qu'il a osé dire », il a une force de contamination qui peut être extrêmement forte sur les réseaux sociaux, avec des gens qui, tout en le partageant, savent très bien qu'ils sont en train de partager quelque chose qui tient pas debout, qui est faux, mais ils partagent l'idée d'une énonciation qui fait sujet de discussion dans les bistrots.
Antoine Mercier.
Oui, parce que vous parlez des producteurs de représentation, donc en fait les hommes politiques, j'imagine, on peut les mettre dans cette catégorie. Or, ils n'ont de cesse que de dire non, on va voir sur Internet, grâce à la démocratie participative, c'est votre programme, c'est vous, mon programme, c'est vous, etc. On voit ça, quel que soit le parti politique, ça a pris une place considérable. Est-ce que là, dans ce travail politique qu'on essaye de reprendre à partir précisément des réseaux, est-ce que là, ça, c'est la même chose, ou est-ce qu'au contraire, quelque chose peut se construire tout de même si c'est organisé dans un cadre de débat participatif?
Oui, là, on est en train de parler des effets viraux, mimétiques, des campagnes de désinformation trumpienne. Mais évidemment, l'Internet est aussi le vecteur de plein
d'autres choses.
Allons
voir du côté de la force, non pas du côté obscur de la force pour rendre hommage à Carrie Fisher, mais plutôt du côté positif de la lumière.
Voilà, si on change de perspective, il y a évidemment sur Internet plein de formes politiques qui sont possibles. Il y a des formes politiques qu'il faut aussi agréger avec les partis ou les instances qui... Ce qui beaucoup plus difficile. Ça, il faut quand même le reconnaître. Mais
est-ce que ça fait de la représentation? C'est ça la question. Est-ce que ça fait juste de l'opinion, du point de vue, même s'il est un peu élaboré? Est-ce que ça fait une représentation collective à partir de ces points de vue?
Ça peut faire des représentations collectives quand vous avez des hashtags qui ont des succès extrêmement forts, quand vous avez des pétitions qui partent de façon extrêmement forte, quand la société civile... il y a plein d'instances de la société civile, think tank, organisation, etc., qui arrivent à faire des mobilisations sur Internet. Il y a une pétition actuellement qui fait du bruit sur Internet pour défendre la sécurité sociale. Bon, on voit bien qu'elle est partie d'associations, mais elle est en train de produire un signal auquel les futurs candidats à la présidentielle vont être obligés de répondre. Donc on voit bien que dans ces articulations entre l'idée, alors moi c'est ce que j'ai beaucoup soutenu, c'est-à-dire que finalement en ouvrant l'espace public à toutes les énonciations, on produit toute une série de signaux extrêmement multiples et variés dans lesquels il faut évidemment faire le tri et sélectionner, mais parmi ces signaux extrêmement multiples et variés, on a l'idée que la société civile produit de la politique, produit du commun, produit des revendications, et que il faut aussi y être attentif et savoir les écouter et sans doute les intégrer ou les réélaborer dans des formes plus constituées des programmes politiques.
Oui, mais Dominique Cardon, si on s'arrête deux secondes sur cette idée des pétitions qu'on a vu fleurir, c'est vrai ces derniers temps, encore dans le journal d'Antoine Mercier, on parlait d'une pétition pour rejuger Christine Lagarde, on voit l'importance qu'elle prenne, mais ça fait pas non plus de l'engagement, c'est facile de cliquer sur une pétition qu'on a reçue par le biais d'un mail ou sur notre page Facebook, Twitter, que sais-je. C'est facile d'être là, de cliquer, c'est pas un engagement politique véritable.
Oui, alors c'est toujours un grand débat. Il est certain que ça n'a pas les formes de l'engagement politique tel que la tradition de la grève, de la manifestation et des formes du syndicalisme, par exemple, ont pu les manifester. Simplement, considérer que c'est complètement anodin est aussi assez difficile. C'est jamais anodin, hein, parce que ne serait-ce que parce que la plupart de ces pétitions, elles apparaissent aussi sur votre compte Facebook et Twitter, donc vous devez assumer une responsabilité ou un point de vue devant des gens que vous connaissez et qui peuvent vous soumettre à la question de « mais pourquoi donc tu t'es engagé pour cette chose-là », etc. Alors, ça n'a pas, évidemment, la force de certaines formes d'engagement politique. Considérer que ça ne veut rien dire, évidemment, serait se tromper sur le fait que les individus manifestent quand même des formes de rationalité dans ces engagements, et que ça témoigne d'un état d'esprit, d'une forme prise par la société. Elle n'a pas la représentativité de la société prise dans son ensemble, pas comme le corps électoral ou le sondage d'opinion prétendait le faire, mais ça envoie des signaux, et ces signaux mérite considération.
Antoine, merci.
Je voudrais revenir sur la face obscure maintenant, parce que...
Ah bon, on n'est pas resté très longtemps du côté positif.
À votre spécialité
positif,
des merci. Algorithmes, notamment, puisque vous nous expliquez que nous sommes extrêmement prévisibles, que tout ce que nous faisons finalement est plus ou moins déterminé par ce que nous avons fait, et que c'est précisément ce à quoi les algorithmes s'attaquent, et les algorithmes viennent nous proposer notre futur en tant que passé réhabilité. Et que la possibilité que nous avons éventuellement de sortir de cette détermination sociologique ou anthropologique est très faible. Est-ce que, à partir du moment où c'est déjà très difficile sans avoir cette pression et ces algorithmes qui nous renvoient cela, est-ce que là on n'est pas vraiment une situation incroyablement impossible à tenir ? C'est-à-dire comment résister en tant qu'individu à toute cette puissance algorithmique qui vient accroître encore notre prévisibilité et nous inciter à rester nous-mêmes.
Oui, alors il faut pas non plus. Il y a plein de familles d'algorithmes, il y a plein de manières de calculer, et on peut demander à un algorithme de calculer différemment. Et d'ailleurs, il y a des projets pour qu'il le fasse. Donc le comportement que j'ai décrit n'est qu'une des figures possibles. On pourrait très bien demander au calculateur de ne pas nous personnaliser, mais de nous aider à nous dézoomer de nous-mêmes. Et ça, c'est un algorithme peut aussi le faire. C'est-à-dire dire à l'individu, je vais te montrer non pas simplement ce que tu as déjà fait et la pente de ton passé, mais je vais t'aider à explorer. Ouais,
ça n'a pas l'intérêt marchand, c'est ça
à
le
explorer.
Problème.
Alors, le problème, c'est que les plateformes ont sans doute moins d'intérêts commerciaux à le faire qu'à renvoyer directement à l'individu ce qu'il va plus facilement cliquer, parce que l'air de rien, l'individu va plus facilement cliquer sur des choses qu'il a déjà faites. Mais on peut d'abord... le numérique, c'est quand même un espace dans lequel les projets sont multiples et divers, dans lequel on peut espérer et voir des propositions de ce type-là à devenir. Il faut aussi qu'on les soutienne et qu'on les encourage. Hein, et ça, j'insiste là-dessus. Google, alors c'est très pervers cette histoire, parce que Google lui-même a fait un système, alors j'ai oublié le nom de l'outil, qui propose un Google News inversé. C'est-à-dire, il propose de montrer les informations qui sont les moins cliquées par pays. Hein, les informations auxquelles les internautes se sont le moins intéressés. Ben, c'est une programmation algorithmique. On peut très bien inverser le système. Moi, je pense qu'une partie, mais là, on est plus dans l'innovation numérique, une partie des choses à pousser, et là, la critique, les associations, les hackers sont très utiles et très nécessaires à ça, c'est d'inventer d'autres systèmes de représentation qui ne soient pas simplement la reconduction de pratiques passées, mais qui soient une aide à l'exploration de futur, de curiosité et de nouvelles informations.
Est-ce qu'on découvre pas en ce moment, de manière peut-être un peu naïve, Dominique Cardon, que finalement, Google, ils ont des enjeux économiques et que ce n'est pas la vérité? Il y avait un sujet ce matin encore sur Jean-Christophe Victor, le présentateur du Dessous des Cartes, disant, en fait, les cartes de Google Maps, elles dépendent du lieu où on les regarde. Si on les regarde depuis la Chine, depuis l'Europe, voilà, on nous présente un peu ce qu'on a envie de voir, même politiquement, pour ne pas perdre les marchés nationaux. C'est cette prise de conscience-là qui existe en ce moment de manière plus large, c'est-à-dire on est aussi enfermé, non pas entre nous-mêmes ou dans nous-mêmes, on est aussi enfermé par un système, c'est un système marchand qui est celui de Google. Et donc on voit se développer, il y a une tribune là récemment pour des états généraux de l'Internet indépendant. Voilà, c'est ça qui se joue là politiquement.
Il est évident que ne pas prendre en compte les intérêts commerciaux absolument énormes de ces plateformes dans la manière dont elles organisent l'information serait une grave erreur. Alors simplement, ce qui est un peu plus compliqué, me semble-t-il, c'est que penser que l'algorithme soit uniquement le reflet des intérêts commerciaux des individus, c'est pas comprendre leur fonctionnement. Il y a quelque chose de plus dans cette affaire, c'est qu'il cherche à rendre service aux utilisateurs. Alors dans le cas des cartes, ou bien dans le cas de certains fonctionnements différenciés par pays, la plupart du temps, en fait, c'est soumis à la régulation des États, les grands opérateurs américains de ces plateformes ont finalement cédé assez facilement leur esprit libertaire d'origine, ils ont cédé facilement aux régulateurs nationaux, et donc ils ont enlevé un certain nombre d'informations en Allemagne, en Europe, parce qu'on a des lois contre la publication de ces informations. Ils cèdent aux représentations nationales de chacun des pays. En Thaïlande, on n'a pas le droit de critiquer le roi. Google a décidé que tous les articles critiques contre le roi de Thaïlande seraient supprimés de Google pour les Thaïlandais. Voilà. Donc ils cèdent comme ça aux formes aussi étatiques de régulation nationale, et ils le font pour des intérêts économiques bien compris.
Et bien voilà qui est dit. On a on a exploré les deux faces obscures et de la lumière de l'Internet aujourd'hui, et de l'engagement et puis de la place des émotions. Merci à vous, Dominique Cardon. Toutes les références bibliographiques sont évidemment sur la page de La Grande Table. Merci à toute l'équipe, Claire Maillot, Clémence Marie, Jean-Christophe Brianchon, Henri Leblanc, Julien Rosa, Camille Ferré et Inès MacGriff. À la technique aujourd'hui, c'était Marc Garvenès et Lucas Vaillant, et à la réalisation, David Jakubowiez. Yeah.